C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine, Hervé Rotten, pour la suite de la leçon de musique commencée la semaine dernière. Nous avions évoqué les rencontres entre chansons juives et chansons françaises, leur interaction créative et leur enrichissement mutuel, et nous avons souligné à quel point cette question de la musique était une porte d'entrée pour comprendre la question complexe de l'identité. Nous avons souligné l'identité juive comme identité dialogique, identité ouverte, identité relation, pour reprendre la formule d'Édouard Glissant, rencontre du lion et de l'aigle, selon la belle image de Rachi que j'avais citée. Identité qui n'est ni un multiculturalisme où chacun est assigné à une place, sans échange et sans partage, ni un relativisme culturel compris comme un tout se vaut, mais un relativisme compris comme ce qui entre en relation, ce qui est relatif à l'autre, coalition de cultures où chaque singularité trouve sa juste place, sans indifférence et sans domination, afin de s'exprimer et de se déployer sans se dissoudre ou se diluer, mais en s'enrichissant et en enrichissant les autres. Une identité qui n'est pas non plus un mondialisme où tout s'aligne en une uniformité fade et sans saveur. C'est par la musique et dans la chanson que nous avons tenté de nous approcher au plus près de ces problématiques de l'identité, car elles sont peut-être un juste miroir des possibilités des différents modes de relation qu'il peut y avoir entre les cultures. Nous avions vu qu'il existe des traductions et des adaptations de chansons juives vers le français et inversement. Nous allons découvrir avec vous aujourd'hui et analyser l'existence de véritables créations. Comment Hervé Rotten sont apparues ces nouvelles chansons? Quel en a été le déclencheur sociologique? Quels en sont les thèmes et les orientations musicales? Comment s'articule-t-elle dans cette question de la relation particulière entre la France et le judaïsme, du patrimonial et du traditionnel? Hervé Rotten.
Oui, c'est une question complexe en fait, mais qui tient à la complexité de l'identité. Tout simplement, il arrive un moment où l'artiste se sent intégré vraiment dans sa nouvelle culture, la culture française en l'occurrence, lorsqu'il arrive d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est, des pays des Balkans, de l'Empire ottoman. Et donc, il va y avoir ce qui le nourrit, c'est cette rencontre qui est toujours enrichissante, une rencontre qui est toujours très riche de potentialités, va lui permettre non plus de reproduire ou d'adapter, mais cette fois-ci de créer. Et cette création s'exprime dans de nombreuses chansons, alors chansons françaises bien sûr, mais aussi chansons juives, c'est ça qui est intéressant. Donc l'artiste va écrire une composition, donc une nouvelle chanson, en utilisant soit sa langue originelle, soit le français, et parfois même un mélange des deux. Et ce qui est important de voir, c'est que ces nouvelles chansons évoquent donc un vécu juif, sans aucune contestation possible, mais la musique elle-même est calquée sur le style musical à la mode. C'est-à-dire qu'on retrouve, notamment après-guerre, toutes les musiques latines qui ont fait danser nos parents ou nos grands-parents, cha-cha-cha, tango, rumba, oriental, etc. Et comme vous le disiez très bien, on est dans ce cas où l'artiste, finalement, bascule d'une musique purement traditionnelle à une musique patrimoniale, c'est-à-dire une musique déconnectée de son contexte de production originelle, mais reliée par la mélodie ou par les paroles à son vécu ou à ses racines juives.
Chante, chante ma guitare, reine et reine, le bladé, parler à mon âme s'égare, et mon cœur sombre dans l'ennui, le chemin qui nous sépare, tout à coup. Quand le storbar de ma guitare vient me parler de l'Algérie. Ma guitare, aller, mon âme s'égare et mon cœur sombre dans l'ennui. Le chemin qui nous sépare tout à coup sera courci quand Starbar de ma guitare vient me parler de l'Algérie.
Lynn Monti, Ma guitare et mon pays, vers 1962. Alors c'est une chanson qui témoigne d'une grande nostalgie, comme dans toutes ses musiques, qu'elle soit ici en rapport avec l'Algérie, mais c'était le cas aussi avec les chansons yiddish. Et cela pourrait sembler paradoxal, il faut inscrire la mémoire des lieux perdus pour pouvoir accepter et s'intégrer de la meilleure façon dans un nouveau lieu. Et la musique serait un peu de ces paradis perdus, souvent plus fantasmé que réel, et je ressens quelque chose de proche de cette phrase de Kafka qui dit « ma patrie le livre », on pourrait dire « ma patrie la musique », ce qui ne remet rien en question de l'identité-relation, mais l'explique de manière originale, Hervé Rotten.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est formidable dans cette chanson de Lynn Monti, comme vous le disiez, c'est cette nostalgie qu'elle exprime dans les deux langues, hein, le français et l'arabe. On retrouve exactement le même phénomène dans les chansons d'Enrico Macias, qui a aussi, je crois, chanté cette chanson-là, et de bien d'autres artistes de l'époque. On les citera pas tous. C'est, comme vous l'avez dit, à la fois l'Algérie perdue avec son soleil. N'oubliez pas ce cabaret oriental qui s'appelle Au soleil d'Algérie. Je veux dire, c'est là où on comprend pourquoi les natifs se retrouvent dans ces cabarets le soir. C'est pour retrouver cette saveur, ce soleil qui leur manque tant. Et en même temps, il y a déjà cette volonté d'intégration dans la société française, cette volonté d'exister, de continuer à perpétuer cette mémoire ensoleillée, ce judaïsme, permettez-moi un peu l'expression du couscous, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois, vous savez, il y a deux éléments essentiels dans le judaïsme, en dehors du judaïsme religieux, j'allais dire c'est la cuisine et la musique, c'est aussi des éléments qui définissent une identité, et ça, on le voit dans la chanson de Lynn Monti.
C'est une véritable création, donc on parlait de création. Là, elle est en français et en arabe, mais on trouve à la même époque, mais pas à la même époque, beaucoup plus tardivement, des créations, et d'ailleurs j'étais très étonné parce qu'on est déjà dans les années 2000, des créations, mais en yiddish. Et là encore, vous avez dit que la musique, c'est la musique du temps à chaque fois, qui est adaptée parce qu'on vit avec son temps. Et dans les années 2000, Jacques Robert écrit en yiddish un rap, ce qui est tout à fait étonnant, Hervé Rotten.
Oui, mais comme je vous le disais donc dans l'introduction de cette émission, dans sa création, l'artiste va s'appuyer sur le style musical qui est en vogue à son époque. Il va pas reprendre quelque chose d'ancien. De toute façon, dans les chansons juives, il y a toujours eu une adaptation musicale à l'époque. On peut pas chanter comme avant, sinon on est un vieux, on est démodé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne passe pas. Ce qui reste, c'est le texte, l'âme de la chanson, la langue éventuellement, mais le style musical, lui, il change. Alors donc, dans les années 2000, l'artiste interprète, auteur-compositeur Jacques Grobert va interpréter une chanson yiddish, yiddish mélangée de français, encore une fois, qui s'appelle Rap Zir Oif. Il s'inspire du rap, qui est le style de l'époque qui est en train de monter, et il écrit un rap yiddish tout à fait passionnant.
Es is a meidel giki men zigein, a mule tal men a mule chayin. Ois geschmeichelt mir a wort, in mir verglivert auf nord. Ois gestrahlend mir a blick, in mir verbinden mit a strick. Zieg ich faliert mir die hand, in mir verkischelt. Una schande, rab sich heim. Ich will nicht hier mehr kommen, Rab se khoy, ne vet vor gebe bluzo, rab se khoy. Ich bin shir mir kemu, rab se khoy. Ne vet vor gebe bluzo. Gegeben ob ich irakisch, c'était plus doux que le dos d'une biche. Oh, c'est gegeben mir zwei klepp, c'était plus dur que le dard d'une gueule. Kriegen Chalusche säufen Diele, Helme die Kelsa Pelodie. Streit sur der Kopf mit Bild Amil, Mais je lui dis pas que je m'appelle Schlemmil. Oh, Rapsachoy, Wenn ich hier mehr
like a moon.
Alors, ce qui est intéressant, Hervé Rothen, c'est que effectivement, c'est écrit en 2000, mais ça pourrait être très très bien écrit dans les années 30 par Dave Cash, où on a là un mélange du yiddish et du français. Elle me dit qu'elle s'appelle Odile, je ne lui ai pas dit que je m'appelle Schlemil, par exemple. Donc sur les sonorités entre le français et le yiddish. D'ailleurs, le mot rap, au début, on pense plus que c'est un slam. En yiddish, rap. Rappen, ça veut dire prendre, saisir quelque chose. Donc là, il y a une sorte de jeu de sonorité où un même mot signifie deux choses différentes en yiddish et en français. Donc une sorte de jeu sur l'amphibologie. Alors vous dites que on est dans son temps, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu hors temps, d'une certaine manière, un peu éternel. On est dans le jazz des années 30, mais on est en 2000.
Oui, mais ça tient à la personnalité de Jacques Grobert, qui était un artiste assez exceptionnel, qui a fait en fait le pont entre la génération de ceux qui étaient vraiment nés dans la tradition donc yiddishophone, qui venaient de Pologne, de Russie, etc. Lui, c'est la seconde génération, donc ses enfants aussi de la guerre, qui ont entendu le yiddish, mais fallait pas trop qu'ils le comprennent, parce qu'on le parlait comme on parlait d'ailleurs le judéo-espagnol ou l'arabe entre les parents et pour que les enfants ne comprennent pas, mais qu'il a appris comme ça, justement, parce qu'il a voulu comprendre ce que disaient les parents. Et après, il a eu cette envie et cette mission de se réapproprier cette langue à travers la chanson. Donc il l'a réappris auprès de grands artistes comme Sarah Gorby, et il a fait ce pont. C'est pour ça qu'il est intemporel. Il a fait ce pont. On est vraiment dans une dimension plus patrimoniale.
Alors, ce que vous venez de dire me rappelle une histoire juive. C'est un petit garçon et sa petite sœur qui joue au papa et à la maman, et la petite sœur dit au grand frère, il dit: comment on fait pour jouer au papa et à la maman? Et le grand frère dit: ben c'est simple, on va dans la chambre des parents. Et après, dit la petite sœur, mais après, on va dans le lit des parents. Et après, on se déshabille. Et après, devant la petite sœur, après, on parle yiddish.
Excellent.
Alors, nous, on va pas continuer à parler yiddish, mais on va peut-être découvrir un nouveau type de création, qui est ici la création d'une chanson juive basée sur un vécu français. C'est la deuxième catégorie de votre typologie, c'est-à-dire l'artiste crée une chanson sur un vécu juif.
Oui, tout à fait.
Rothen.
Alors, vous savez, c'est des allers-retours constants. Hein. On a parlé d'allers-retours entre la culture d'origine et la culture française, mais c'est pareil au niveau de cette création. Il y a des allers-retours constants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'un artiste se limite à une seule posture. Vous savez, faire une typologie, il y a toujours quelque chose d'un peu artificiel. On essaye de catégoriser les choses, mais c'est beaucoup plus complexe. La réalité est complexe, le judaïsme aussi. Alors là, on est au summum de la complexité. Donc ici, on a un artiste des années juste après-guerre, hein, il s'agit de Richard Inger, qui va chanter une chanson qui s'appelle « Ma petite maison de la rue des Rosiers », une chanson de 1953, donc qui chante dans les cabarets yiddish. Et cette chanson est révélatrice du fait que on a un artiste dont le yiddish est la langue maternelle, mais qui s'est tellement intégré à la France, qui dans son âme est devenu tellement français qu'il continue à chanter en yiddish, mais pas des anciennes chansons yiddish d'autrefois qui ont vu le jour en Pologne, en Russie ou ailleurs. C'est des chansons yiddish parisiennes. Et il va parler de la Seine, il va parler de Paris, des monuments, des cabarets de Pigalle, de tout. Et là, on voit bien à quel point est-ce qu'il est yiddishophone, est-ce qu'il est francophone, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas avant tout une multitude de tout ça. Vous voyez, c'est tout ça s'exprime dans cette chanson.
Paris bis gigantisch, wie groß und wie breit, Millionen von Menschen haben sich mit ihr schön gefreit. In tausender Lichter Glanz, wie prächtig bist und schön, dein Stolz der Tour Eifel, dein Fluss ist der Seine. Hark in Boulevard, Tempo geschwind, in wo dieser Mensch, du ein Blättchen Wind, in doch denk ich nur, um mein Herz gib mir Reus. Hore zu mein alten Jiddisch. sich aus. Ma petite maison dans la rue de Rosiers. Wenn ihr der Mann sieht, tut mein Herz mir weh. Man geht, man läuft, man blockt in Schrei, Lockchen in die Hand. Kuschere ist ruhig im Appartement. Ma petite maison dans la rue de Rosiers. Gott schweig, ich bin in Chulem, ich dir seh. A lila in a Siderol, dazu a vielen Sack. A Schabestiger, Schulen.
Je pensais que la chanson était en français, avec son titre « Ma petite maison de la rue des Rosiers ». En fait, j'aurais dû annoncer le titre « Ma petite maison de la rue des Rosiers
oui, ».
C'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Alors là aussi, il y a de très nombreuses blagues sur l'accent yiddish. Il y a un troisième cas de figure, maintenant, c'est la création d'une chanson française basée sur un vécu juif. Mais là, la chanson est vraiment en français. C'est le cas, par exemple, de Régine et une chanson qui s'appelle Le Chandelier.
Oui,
Hervé Rotten.
On connaît bien Régine pour toutes ses chansons. Enfin, Régine, c'est une grande dame aussi de la chanson française. Régine était juive et elle n'a jamais renié d'ailleurs son judaïsme. Et elle a eu l'occasion de faire plusieurs chansons juives, deux ou trois. Et notamment grâce donc à son parolier dont j'ai parlé dans la première émission qui s'appelait Eddy Marnay et puis le compositeur extraordinaire Émile Stern qui lui ont écrit des paroles sur mesure. Elle a notamment écrit donc une chanson qu'on va entendre qui s'appelle Le Chandelier et qui évoque alors vraiment l'atmosphère typique de Shabbat, c'est-à-dire le chandelier, les bougies de Shabbat qu'on allume, l'odeur du pain dans la maison, et puis les amandes aux amandiers, ça c'est toute une référence aussi à ce côté juif d'Europe de l'Est. Rosinke Smith Mandel, c'est une chanson yiddish connue, donc on va l'entendre et puis on commentera peut-être après.
Chante-moi la chanson de ce temps-là. Chante-moi les moments qu'on n'oublie pas. Que ta voix ramène comme autrefois les amandes aux amandiers sur la table à chandelier et l'odeur.
Nous sommes là dans une chanson où il n'y avait pas un seul mot en yiddish, tout était en français, on sent une tonalité. C'est peut-être le fait que nous soyons déjà dans une génération ultérieure, on pourrait presque parler de deuxième, troisième génération.
Oui, tout à fait. Alors, ou de la première génération, mais qui est née, enfin, qui est arrivée très jeune, donc qui s'est complètement intégrée dans l'école de la République et qui, sa vie, c'est la France, son vécu, c'est la France et sa langue, c'est le français. Donc, le français, on le parle, on exprime ses idées en poésie dans ses chansons, mais il y a derrière ça quand même un vécu juif, le pain de Shabbat, Régine, elle l'a en mémoire, le chandelier sur la table, et elle le propose à un public qui est très très large. Et c'est peut-être la particularité de cette dernière catégorie, de cette chanson française basée sur un vécu juif, c'est que c'est l'intégration ultime finalement, c'est-à-dire que on chante non plus devant un public nostalgique de yiddishophone ou oriental des années 20 ou des années juste après-guerre, on chante à l'Olympia, on chante sur les plus grandes scènes, mais son identité juive, vive, qui nourrit ces chansons, elle reste là, elle reste présente.
Et c'est là où on voit vraiment cette question de l'identité que nous évoquons déjà depuis l'émission de la semaine dernière, où il y a vraiment un tissage, comme disait Rachi, qui n'est pas un métissage, mais un tissage où à la fois il y a la singularité qui est présente et ouais, en même temps une rencontre totale avec avec le lieu dans lequel toutes ces personnes vivent.
C'est même un entrelacage, c'est-à-dire que c'est un peu comme moi je vois comme une, vous savez, les molécules ou les gènes qui tournent comme ça, ce qui est constitutif finalement de notre existence. En effet, de gènes, ça a la même forme. Je défie quiconque d'arriver à dénouer lequel vient de qui. C'est, vous savez, c'est un individu, il est fait de gènes de ses parents, de ses grands-parents, ça transperce les générations. Et ben, ces musiques-là, c'est la même chose. Ce qui les fait vivre, c'est justement le mélange des éléments constitutifs de ces musiques.
Alors, vous parlez de Régine, on peut parler aussi de Moustaki.
Oh là là, on peut parler de Moustaki, on peut parler de Barbara, on peut parler de Goldman, on peut parler d'énormément d'artistes qui vont chanter cette fois-ci donc bien en français, mais leur chanson illustre un vécu qui est typiquement juif.
J'ai un faible pour Moustaki.
Je m'en doutais. Alors c'est pour ça que je vous ai apporté une chanson qui est une chanson d'ailleurs, une des dernières chansons de Moustaki qui s'intitule « Les mères juives ». Elle est peut-être moins connue, elle est tellement merveilleuse cette chanson et tellement humoristique. Mon seul regret c'est qu'à chaque fois on est obligé de couper donc on pourra pas aller jusqu'au bout. Donc je vous encourage à aller chercher cette chanson, on peut l'entendre partout même sur YouTube. Donc la chanson « Les mères juives » de Moustaki qui date de 2005.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive. Les mères juives, je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté deux cravates. Tu as mis la bleue avec des pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives.
Alors c'est vraiment très étonnant, Hervé Rotten, parce que je vous voyais sourire en écoutant et en même temps c'est très très émouvant. Mais ce qui me fascine le plus, enfin me trouble, c'est que on a vraiment l'impression qu'il y a un parallèle total entre l'humour juif et la chanson juive. C'est-à-dire que on retrouve tout à l'heure dans la question du yiddish, j'ai raconté une petite histoire juive, et là on est vraiment dans, sans que ça soit la caricature, on est vraiment dans les thèmes que vont reprendre l'humour juif, et dont ce thème principal de la mère juive qui est toujours très 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 attentive à son fils. Je pense à cette blague, qu'est-ce qu'un pullover juif? C'est ce que l'enfant porte quand la mère a froid. Voyez, est-ce que vous avez, à travers votre recherche, votre travail d'ethnomusicologue, constaté cette permanence du rapport entre musique et humour, Hervé Rotten?
Oui, souvent, surtout dans ces musiques de cabaret, ces musiques d'après-guerre, parce que paradoxalement, ou d'avant-guerre, la période est sombre et on a besoin, au contraire, de plaisanter de tout. Vous savez, c'est s'étourdir jusqu'à la lie. Et donc, il y a un humour qui est permanent dans ces chansons-là.
J'ai l'impression que c'est aussi le fait que l'humour, comme la chanson, sont des vecteurs de cette question sur l'identité. C'est-à-dire que peut-être que c'est à partir de ces deux vecteurs, humour et chanson, qu'on peut travailler, approfondir cette question de l'identité en général et de l'identité juive en particulier.
Oui, c'est vrai, exact. Mais on ne peut pas, à mon avis, résumer l'identité juive simplement à l'humour. C'en est une partie.
Non, c'est pas ce que je disais. Je disais que, comme la chanson, l'humour sont des lieux de recherche ou des miroirs de la société juive particulièrement féconds.
Tout à fait.
Non, et alors donc on découvre cette chanson que je ne connaissais pas du tout. Hein, c'est formidable de nous la faire découvrir. Et alors il y a des chansons qui sont plus connues, comme celle de Goldman par exemple, qui véritablement, lui venant aussi de famille d'origine polonaise, c'est aussi un vécu juif de l'époque qui vient juste de passer.
Oui, et ça, il y a nettement moins d'humour, puisque la chanson que nous allons entendre, elle s'appelait Sarah, a été composée en 1982. C'est une chanson, je dirais, de jeunesse, quand on voit Goldman la chanter. Donc c'est l'évocation un petit peu, Sarah, c'est l'équivalent de Anne Frank. C'est l'équivalent pourquoi cette enfance, ces enfants emportés, pourquoi ces enfants tués. Tout ce qu'il faut aujourd'hui éviter, parce que là, ce qu'on tue, c'est pas seulement l'humour, c'est pas seulement la musique, mais ce qu'on tue, c'est simplement le fait de pouvoir vivre et profiter mutuellement l'un de l'autre.
Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici.
Du rire aux larmes, on est passé de Moustaki et l'humour juif à cette évocation de la Shoah. Là encore, la musique et en particulier la chanson dit quelque chose de profond de cette identité humaine qui n'est pas faite d'un seul bloc, mais qui est traversée par des émotions souvent contradictoires. Et c'est intéressant parce que d'une certaine manière, ça permet de ne pas s'enfermer dans une seule tonalité d'être.
Alors en fait, ça c'est dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les musiques qui se créent actuellement, les musiques juives entre guillemets, parce que encore une fois le mot juif est très très complexe, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui rattache, que ce soit culturellement ou culturellement, à ce judaïsme, à un vécu juif. On va entendre une création tout à fait récente, il s'agit d'un disque qui vient de sortir, qui s'appelle Somos los Sigarios, publié par l'Institut européen des musiques juives, où l'interprète, donc David El-Shatran, va mêler une prière traditionnelle de Pessah, Etmol, Aïnou Avadim, hier nous étions esclaves, en faisant référence à un esclave en Égypte, Sur des musiques à la fois africaines, asiatiques, américaines, cubaines, enfin, et c'est cette ouverture à la world music ou à la musique de fusion, comme on dit, qui est aujourd'hui un courant dominant dans la musique, c'est-à-dire que le monde est un petit village, c'est cette vision-là, et qui, encore une fois, montre que cette passerelle ne se limite pas uniquement à la France, mais que globalement, on est curieux de tout et on a envie de d'explorer, de s'enrichir et d'enrichir l'humanité en fait.
Merci beaucoup Hervé Rotten pour cette seconde très belle leçon de musique et merci de nous proposer de terminer cette émission sur un air de Pessah, la Pâque juive qui dure cette année jusqu'à lundi soir ou mardi soir prochain selon les communautés, en même temps que les Pâques chrétiennes, une autre façon de faire danser ensemble l'aigle et le lion. Je rappelle que les auditeurs peuvent retrouver toute votre actualité sur le site de l'émission et sur le site de l'Institut européen des musiques juives que vous dirigez, un institut qui fait un travail magnifique que je salue et encourage car c'est vraiment un travail très précieux. Merci encore Hervé Rotten.
Merci à vous de m'avoir reçu Marc-Alain Wacknin.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wacknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Jean-Michel Bernot, à la réalisation, Dany Journeau, qui est toujours en train de danser, Kol Tov, Leitraot, bonne fête de Pessah et bonne fête de Pâques. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.